C'est arrivé en 44, émission spéciale proposée sur Radio VFM avec votre région Normandie depuis la salle des fêtes de Campagnol. Émission en public avec nos invités, avec des témoins. Nous étions tout à l'heure avec Jeannine Coq, historienne locale. Nous avons entendu également Guy Legorgeux qui avait 8 ans au moment du débarquement ici en 1944 et qui habitait la ferme du château avec sa famille. Nouvelle invitée à notre micro, direction Souleuvre-en-Bocage, puisqu'il est le président du musée de la percée du Bocage. C'est un grand spécialiste de la libération du Bocage virois. Bonjour Billy Leblond.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu également à notre invitation. C'est pas si courant d'avoir quelqu'un d'aussi jeune que vous, d'impliquer de cette manière dans l'histoire locale. C'est aussi quelque chose qui vous a profondément marqué.
Oui, surtout avec la découverte, en fait, quand je faisais mes études du musée de la percée du Bocage. Donc j'avais une grande passion déjà pour l'histoire et la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en rencontrant Jaime Aynard, le fondateur du musée, que j'ai pris une grande passion pour ce qui s'est passé dans notre secteur, la libération et l'histoire des hommes.
Il faut aller le visiter, ce musée, évidemment. Si on ne l'a pas encore fait, c'est l'année où il faut aller, évidemment, s'intéresser à cette bataille du Bocage qui est notamment évoqué dans ce musée, Billy Leblond.
Oui, alors au musée, on parle de l'opération Bluecoat, donc c'est l'opération britannique qui va faire suite à l'opération Cobra. Ce qu'il faut comprendre, en fait, après le 6 juin, les Américains arrivent aux limites de Caumont et les Britanniques piétinent autour de Caen. Ça va être des lourds combats autour de Caen pour prendre la ville, et à la mi-juillet, ils y arrivent. Les Américains, de leur côté, ont réussi à prendre Cherbourg et commencent à redescendre et préparent leur avancée pendant l'opération Cobra, justement, qu'on appelle également percée vers Avranches. Le seul problème de cette percée, ils avancent trop vite et arrivent à voir que leur flanc gauche va être à découvert. Ils demandent donc aux Britanniques de lancer rapidement une opération de soutien pour protéger ce flanc. Donc c'est le 25 juillet justement que les Américains lancent Cobra et les Britanniques, en l'espace de quelques jours, vont lancer cette opération. Normalement, elle doit être lancée pour le 2 août, mais vu le déplacement des troupes allemandes, elle est avancée au 30 juillet. 30 juillet, les Britanniques prennent la ville de Caumont, qui était tenue par les Américains, et commencent à avancer. Ils ont deux grands objectifs, confiés à deux corps d'armée. De prendre l'axe Vassivir et également le Mont Pinson, qui est le plus haut sommet de Normandie. Un général allemand avait dit également que celui qui tient le Mont Pinson tient la clé de la victoire en Normandie. Donc, le 30 juillet, les Britanniques partent de Caumont. Pour le 8e corps, objectif d'abord de prendre Saint-Martin et les hauteurs environnantes. La côte 226, réservée à la 6e Tank Square Brigade, et également la côte 309. Et le village de Saint-Martin, qui va être donné à la 11e division. Donc, non sans mal, parce que les Allemands, après une avancée rapide des Britanniques, vont se retrancher derrière la voie de chemin de fer. Les Britanniques piétinent et se préparent à livrer des combats de nuit. Par chance, le 31 juillet, une unité de reconnaissance britannique va traverser les lignes allemandes et arriver à un petit pont sur la Souleuvre. Ce qui se passe, en fait, ils traversent la défense de Saint-Martin et devant eux, un blindé allemand qui reprend ses arrières pour aller à un atelier de réparation. Ce blindé allemand, avec l'été, fait beaucoup de poussière, ce qui permet de camoufler deux véhicules de reconnaissance britannique. Ils continuent à le suivre à la forêt l'évêque. Celui-ci tourne à gauche et ceux-ci arrivent au pont du taureau, maintenant en fait connu sous ce nom, parce que l'emblème de la 11e division britannique, c'était un taureau chargeant. Quand ils sont arrivés là-bas, ils envoient un message au haut commandement qui d'abord ne les croit pas. On leur demande de vérifier leur carte pour voir s'ils sont bien ici. Ils renvoient un message radio qui a du mal à passer et finalement, il est constaté qu'ils sont là-bas et on demande à la 11e division du général Roberts de prendre ce pont. Ce qui se passe en fait, c'est que les divisions allemandes ne se sont pas mis d'accord sur qui devait garder le pont. On a d'un côté les parachutistes, de l'autre l'infanterie et chacun croit que c'est à l'autre unité de le garder. On envoie donc la 11e division prendre ce pont, non sans mal parce que les Américains à un moment se trompent de chemin et rentrent en secteur britannique, ce qui retarde l'arrivée des alliés à Béni Bocage. Ils arrivent dans la soirée, quand ils sont là-bas, ils commencent à se préparer pour avancer dans la ville et les moteurs des véhicules sont chauds et un des soldats de l'infanterie a laissé une munition sur un des chars. Il y a une grande explosion qui retentit et ils prennent des positions défensives pour la nuit et remettent à l'avancée vers Béni le lendemain, qui sera libéré le 1er août. Une fois en fait arrivés à Béni, ils sont sur l'arrière des Allemands. Ceux-ci, voyant qu'ils vont être bloqués après avec la rivière, commencent à reprendre d'autres positions défensives au niveau de villes comme Saint-Charles-de-Percy, Montchamp. Ils vont continuer à combattre à ce niveau-ci et c'est là que des divisions allemandes commencent à affluer pour la contre-attaque de Mortain. Ils passent à travers l'axe Vassivir justement et prennent des positions défensives au niveau de Étry et le Bas-Perrier. Pour se donner une idée, en fait, l'avancée de Caumont à ces deux villes, c'est 7 jours, et ça va s'en suivre par 7 jours de combat pour prendre ces deux villes.
Tout est allé très vite, alors tout n'est pas parfaitement coordonné, vous le disiez tout à l'heure, évidemment, dans les rangs britanniques, dans les rangs des Américains, ça crée aussi évidemment la confusion, on l'imagine, dans les habitants des campagnes, dans les habitants de ce territoire, peut-être de la confusion aussi dans les rangs allemands.
Oui, de la confusion dans les rangs allemands également, parce que justement, ils ne s'attendent pas à voir les Britanniques arriver si rapidement derrière eux. Les civils, eux, sont très heureux de voir leur premier libérateur. On a beaucoup de témoignages, justement, de personnes de la 11e division qui sont surpris d'être accueillis de cette manière-ci par les civils. Depuis qu'ils sont arrivés en Normandie, donc ils sont arrivés pour ceux de la 11e à partir du 11 juin, ils traversent ville et village, mais le plus souvent qui ont été libérés ou qui sont au milieu des combats. Et donc les civils ne sont pas forcément heureux de se retrouver au milieu d'un champ de bataille. Ici, c'est différent, c'est leur premier libérateur, et quand ils arrivent à Benny-Bocage, et plus tard surtout à Flers, ils sont accueillis comme des héros. Ce sont les embrassades, les scènes de liesse, et à partir de ce moment-là, les hommes de la 11e division ne disent plus qu'ils prennent des objectifs, mais bien qu'ils libèrent des villes. C'est vraiment un changement dans leur état d'esprit, et ça va continuer comme ça jusqu'à la libération de la Belgique, de la Hollande, jusqu'à la fin de la guerre.
Nicolas Lebec, président de Radio VFM.
C'est intéressant cette description-là, parce qu'il y a eu à un moment donné des désaccords entre des historiens français et des alliés par rapport à la vision du débarquement de la bataille de Normandie. C'est-à-dire que les Français ont dit, ils ont eu du mal, le plus dur pour eux, ça a été de franchir les plages. Omaha Beach, avec le drame que l'on connaît, Omaha la sanglante, etc. Alors que les historiens américains disaient que le plus dur, ce que n'avait pas imaginé le commandement de Eisenhower, c'était que le plus dur, c'était le bocage.
Oui.
Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à une résistance allemande aussi bien regroupée, un Allemand derrière chaque haie, avec des chiffres assez précis, hein, notamment dans la Manche, ça a été la bataille entre Perrier et Lessé, mais également ici dans le bocage où eh bien, il y avait des snipers allemands qui étaient restés, parce qu'on va en parler aussi, c'est quels Allemands restaient, hein, parce que tout à l'heure on a évoqué les SS qui n'étaient pas là, mais les SS sont venus renforcer à mon donné le front normand, notamment la SS Hochstaufen qui est arrivée de Russie, et qui, eux, c'était jusqu'à la mort. Et du coup, ils sont restés des jours entiers, blottis dans des haies, et ont pris à revers les lignes américaines ou anglaises. Et les historiens américains, pour eux, le plus dur en Normandie, ça n'a pas été d'arriver, ça a été d'avancer, et notamment ce qu'on entend ici, en fait.
Oui. Vous parliez justement des snipers. On a, dès le début de l'opération Bluecoat, le cas d'officier de la Guards qui avance dans le bocage, essaye de discuter avec leurs troupes, sort par la tourelle. Les snipers guettent ça justement pour abattre les officiers britanniques. On a le cas de George Grey, par exemple, ou du fils du général Marshall Cornwall, qui sont commémorés encore dans les villes où leurs tombes sont restées. Leurs familles ont choisi qu'ils restent enterrés là-bas. Également, donc, on parle des Allemands qui sont bien retranchés dans le bocage. Le bocage, ils connaissent depuis plusieurs années, ils s'y ont entraînés. Les parachutistes, par exemple, certains étaient du côté de Flers, ont fait des entraînements du côté de Vassy, donc ils connaissent bien le secteur où ils sont. Et ils vont utiliser le bocage justement comme des lignes défensives, et chaque champ en fait est lieu de combat.
Alors moi j'ai une seconde question par rapport, on a parlé des Américains et des Anglais qui arrivent dans le bocage. Il y a eu quand même dans cet état-major anglais, les états-majors des alliés pardon, cette rivalité un petit peu américaine et anglaise. Les Américains se moquant des Anglais qui devaient prendre Caen à J+1, c'est-à-dire le 7 juin, Caen devait être libéré, il n'a pas été, et les Anglais qui se moquaient un peu des Américains parce qu'ils n'arrivaient pas non plus à leur objectif. Donc il y avait une sorte de course à l'échalote, oui, entre ces deux, et ce qui n'a pas été forcément très, très bien vécu par les deux armées. Pas d'accord, donc c'est intéressant.
Comme quoi les versions, oui, les versions pour ça que c'est intéressant. Diffèrent aussi. On redonnera évidemment la parole tout à l'heure à Janine Coq pour parler notamment de tout ce qui s'est passé dans les campagnes. Vous êtes donc au cœur de cette émission C'est arrivé en 44, émission proposée depuis la salle des fêtes de campagne, l'émission en public proposée en partenariat avec votre région Normandie. Derrière nous, Nicolas, sont projetées des photos d'époque, de magnifiques documents d'archives qui illustrent également évidemment ce qu'a connu ce territoire. C'est vrai que Billy Leblond, le musée de la percée du bocage, il raconte, on le disait tout à l'heure, tout un pan de l'histoire qui est méconnu souvent même par les habitants de ce territoire. C'est vrai que quand on parle du débarquement en Normandie, Nicolas Lebec le disait tout à l'heure, on parle de tout ce qui s'est passé sur les plages normandes, mais la bataille du bocage, c'est quelque chose qui a compté également dans l'histoire.
Oui, oui. Et ce qui se passe également dans l'histoire du bocage par chez nous, c'est que on a une partie où c'est le secteur britannique. Et une grosse partie de l'opération britannique est éclipsée, en fait, faite par la grande opération américaine, l'opération Cobra. Mais ce qu'il faut savoir sur l'opération Blue Coat, c'est une des premières opérations réussies en partie pour les Britanniques. Ils ont longtemps combattu du côté de Caen, justement, comme vous le disiez, et là, pendant l'opération Blue Coat, ils commencent à percer. Ils réussissent à prendre leurs objectifs, et également, ils commencent à se diriger vers Vire, justement. Vous parliez des différences entre les Américains et les Britanniques. Les troupes de la 11e division britannique commencent à arriver aux abords de Vire. Ils rencontrent des personnes qui se disent résistantes et qui leur disent que la ville est ouverte. Seulement, c'est un objectif américain. À trois reprises, les Américains vont refuser aux Britanniques d'entrer dans la ville. À la dernière reconnaissance, quand les Britanniques commencent à avancer, les bataillons de Chartigues ont commencé à arriver à Vire, et là, ils abandonnent complètement l'idée de prendre la ville, et ils ont d'autres priorités sur les combats de Perrier et du côté d'Étry.
Billy Leblon, président du musée de la Percée du Bocage, vous évoquiez tout ce qui s'était passé entre Vire et Flers. Entre Vire et Flers, il y a notamment Trutmer-le-Grand. On salue aussi le maire de Trutmer-le-Grand, maire délégué, Pierre-Henri Gallier, qui est avec nous pour cette émission spéciale, au même titre que des élus du conseil municipal de Campagnol et des élus, évidemment, des communes du Bocage. C'est tout ça que vous racontez dans le musée de la Percée du Bocage, Billy Leblon, à travers des documents d'archives aussi, qui racontent évidemment tout ce qui s'est passé dans les moindres détails.
C'est tout ça et encore aussi bien plus en fait, parce que l'aspect original de notre musée, c'est qu'on s'est attardé sur l'histoire des hommes qui nous ont libérés et également ce qu'ils sont devenus. C'est d'abord un aspect humain plus qu'un aspect militaire.
On y raconte pas mal d'anecdotes.
Oui, plein d'anecdotes également de ce qui a pu arriver aux soldats, ou également des objets qui ont des anecdotes. On a par exemple un chapeau d'une habitante de Saint-Martin qu'elle a laissé dans le village, et après la libération, les Anglais visitent les maisons pour voir s'il n'y reste pas des soldats allemands, et ce chapeau est porté par les soldats anglais pour le journal, mais également pour être filmé. Et donc il a survécu au combat, retrouvé par sa propriétaire, et des années après, avec un article de journaux, ils ont été offerts au musée.
On vous retrouvera pour la conclusion de l'émission tout à l'heure, Billy Leblon, mais simplement un petit mot sur la promo de ce musée, profitez-en. Oui. On peut aller le visiter cet été. Comment peut-on le découvrir, Billy Leblon ?
Alors le musée est ouvert tous les week-ends de avril à septembre, et de juillet à août, on est ouvert tous les jours, du mardi jusqu'au dimanche, le lundi étant le jour fermé. Là-bas, donc, on vous accueille, on a un saisonnier, et le 27 et 28 juillet, on fête la libération. Donc avec un camp militaire, une bourse militaria et également un défilé de véhicules.
Grand rendez-vous donc, celui qui sera proposé avec le musée de la Percée du Bocage le 27 juillet prochain, voilà, pour cet événement avec le musée. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Jeanine Coq est toujours à nos côtés, historienne locale. Parlez-nous de la solidarité qui se passe à ce moment-là. Jeanine Coq, la solidarité des campagnes. Vous me disiez tout à l'heure, on n'en parle pas suffisamment.
Non, c'est vrai. Les campagnes ne forment pas du tout un monde à part. Je vous ai parlé tout à l'heure du ravitaillement qu'ils fournissent. Pas forcément en marché noir, hein, il ne faut pas exagérer. Mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est cette forme de résistance larvée. On n'est pas forcé d'adhérer à un réseau. On peut être résistant dans des gestes quotidiens. Par exemple, c'est le refus de donner un poste de radio à la réquisition, de livrer des chevaux, de livrer de la viande. C'est courant dans les campagnes, ce refus. De même, ils prennent des risques énormes dans toutes les campagnes, peut-être à Campagnol, je ne connais pas assez, mais dans de nombreuses campagnes autour de Vire, on héberge clandestinement des résistants qui sont recherchés par la milice, par exemple. On héberge également, et ça c'est vrai surtout dans le sud de Vire, des aviateurs qui ont été abattus, les aviateurs anglais. Dans ce cas-là, on les cache, on fait appel au réseau de résistance virois pour les exfiltrer, prendre le train, les emmener à Paris et de là, les faire passer en Espagne. Ils prennent des risques énormes. On peut citer des quantités de cas aussi d'aviateurs abattus, cachés, par exemple, j'allais dire, à la Graverie, on a le cas de Trutmer, on a le cas de Bernières, etc. Et puis surtout, cette solidarité, mais énorme à la suite du bombardement de Vire. Au soir du 6 juin, je dis, c'est la sidération. On attendait la libération par des parachutistes, sont des bombes. Un premier bombardement avec des tonnes de bombes qui écrasent la ville. Deuxième bombardement, 10 minutes plus tard, ce sont 300 bombes incendiaires qui tombent sur la ville. Monsieur Le Gorgeux évoquait tout à l'heure l'incendie. Tous les Virois qui sont réfugiés sur la hauteur de la Bénardière se souviennent de la silhouette noire de la porte-horloge qui est en quelque sorte l'emblème de la ville se détachant dans l'incendie. Et il y a 411 victimes sous les décombres qu'on ne peut pas évacuer. On n'a rien, on n'a pas un brancard. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juin, eh bien, on fait appel aux campagnes pour que les paysans viennent avec des voitures à gerbe, avec des carrioles et déblayer à main nue pour que l'on trouve les corps qu'on peut encore sauver. Il faut évacuer les malades de la clinique Ambroise-Paré, c'est la clinique Notre-Dame actuelle, hein. Ceux de l'hospice, les vieillards, les invalides de l'hospice de Saint-Louis, et j'en oublie, tous ceux qui sont dans les postes de secours. Ce sont les paysans qui vont faire ça, les emmener notamment vers Trutmer. Il y a aussi, et à ne pas oublier, l'accueil des réfugiés. Vous en parliez, monsieur Le Gorgeux, et vous avez tout à fait raison. Quelques chiffres. Il y a 2000 réfugiés à Saint-Germain, 1 millier à Maisoncelle, 1700 à Roulour, la Lande Vaumont, les deux Trutmer, Coulonce, 270 aux Étalards. Et pendant 2 mois, il va falloir nourrir ces gens-là. Comment ? Alors, on va plonger dans les réserves, on va ressortir par exemple des greniers, les vieux moulins à grains pour le sarrasin, etc. Et enfin, un dernier point, ne pas oublier que c'est grâce aux campagnes voisines que les structures de vire permettant la cohésion après la libération, que les structures de vire vont se réfugier. La gendarmerie et commissariat de police et la poste, par exemple, à Maisoncelles, les services sanitaires à Trutmer, la mairie à Saint-Germain-de-Talvande, de façon à avoir comme ça des pôles qui, dans la deuxième quinzaine d'août, quand on peut rentrer à vire, peuvent remettre en place une forme de vie. Ce que le général de Gaulle voulait surtout éviter, c'est que les Américains, dans le cadre de l'Amgot, les Américains ont tout préparé. Ils ont préparé des sortes de protectorats à mettre sur les villes libérées, et ça, le général de Gaulle ne veut pas en entendre parler. Donc, il ne faut pas oublier tout cela. Je tenais à insister là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on ne développe pas, qu'on connaît mal, et pourtant, on doit dire merci, merci à toutes les communes voisines qui ont permis à vire une sorte de résurrection, si on peut dire, à la fin août.
Il y avait déjà l'esprit de vire Normandie à l'époque, l'esprit de solidarité.
Non mais c'est vrai, il faut insister là-dessus parce que je crois qu'on ne le fait pas assez.
Merci infiniment Jeannine Coq pour ce récit incroyable. Effectivement, vous avez raison de mettre en avant la solidarité des campagnes à cette époque. C'est arrivé en 44, cette émission spéciale consacrée évidemment au 80e anniversaire du débarquement. On se retrouve dans un instant pour la 4e et dernière partie de cette émission. Il y aura des questions du public et puis on évoquera aussi les autres rendez-vous qui nous attendent encore évidemment dans notre région tout au long de l'été.